Il est 14h, presque 31 minutes. Les internationaux de tennis Rogers se sont mis en branle, en fait, depuis déjà quelques heures. Ils vont se poursuivre jusqu'au 12 août prochain. Les femmes, bien sûr, sont à Montréal cette année. Les hommes seront à Toronto, où nous joignons Hélène Pelletier, qui est analyste de tennis et qui a donc, je pense même, eu un entretien aujourd'hui avec Denis Shapovalov. Bonjour, Hélène.
Oui, bonjour Louis. En fait, je suis à Toronto depuis un petit bout de temps parce qu'évidemment à RDS, on a la chance de faire beaucoup de matchs des hommes.
Ouais.
On a tous les tournois de la série 1000 à part évidemment la Coupe Rogers pour des raisons assez évidentes. On a aussi les tournois du Grand Chelem. On a aussi les Olympiques. Donc, ma vie, moi, est axée, je te dirais, 80%, même peut-être 90% du temps, je regarde des matchs chez les hommes.
Mm-hmm.
Et je dois t'avouer que j'ai franchement eu un grand, grand coup de cœur, comme à peu près toute la planète tennis, pour Denis Shapovalov. Et tout ça, ça a commencé lorsqu'il a gagné le tournoi junior à Wimbledon, qu'il a bien enchaîné à sa première présence à la Coupe Rogers à Toronto l'année dernière, en battant un bonhomme comme Nick Kyrgios, et en enchaînant avec un tournoi de rêve l'année dernière, en battant notamment Del Potro et Nadal.
Ben oui.
Oui, oui. Puis il avait continué aussi en se qualifiant au US Open et en se rendant très loin dans ce tournoi-là.
Ouais.
Et les demi-finales cette année au tournoi de Madrid. En tout cas, il est vraiment une grande vedette. Puis il est encore tout jeune. Tu sais, Louis, c'est énormément de pression sur les épaules. Soudainement, tous les commanditaires lui courent après. C'est comme si déjà, l'année dernière, à 18 ans, il faisait écarquiller les yeux de la planète. Il était invité par Federer à la Coupe Laver. Seulement les tout meilleurs étaient là. C'était un honneur extraordinaire. Mmh. Et c'est de savoir maintenant tout gérer. Et il m'a dit que gérer les gens de la presse, pour lui, c'était un gros stress. Il a dû apprendre à le faire, apprendre à ne pas nécessairement prendre les choses de façon personnelle. S'il y a une question qui est un petit peu plus pointue, s'il y a une question qui le dérange un peu plus. Tu sais, des fois, il y a des gens qui nous disent des choses, nous posent des questions, puis ça nous gratte en dedans un tout petit peu. Alors, il a dit apprendre dans ce sens-là, et j'espère qu'il sera pas trop stressé pour son premier match. Il va jouer contre Jeremy Chardy. Il a battu Chardy au premier tour des internationaux d'Angleterre, donc à Wimbledon il y a quelques semaines, un match en 4-7. Plus le match avançait, plus c'était serré.
Mm-hmm.
Il avait commencé en feu, puis il levait le pied un tout petit peu. Mais je pense qu'évidemment, encore une fois, c'est un match à sa portée. Et par la suite, il faut voir comment les choses vont se développer. Il y a encore des joueurs de grande qualité qui sont dans sa portion. Évidemment, Del Potro n'est pas trop loin. Alors, j'ai hâte de voir comment les choses vont se développer pour lui cette année. Parce qu'évidemment, il a énormément de pression sur les épaules cette année, on comprend ça.
Il y a Miloš Raonic aussi. Dans son cas, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on entrevoit pour lui dans ce tournoi-là?
Il joue contre David Goffin, qui est 10e tête de série, le Belge. Mais depuis que Goffin a été blessé à un œil, un bizarre d'accident. Tu sais, il est au filet, Louis, la balle frappe le bord de sa raquette et ça lui a rebondi dans l'œil, ça a brisé. Il a été chanceux de pas perdre son œil, en fait.
Ah oui, hein?
Et puis, il est un petit peu moins vif. Tu sais, la vision, c'est tellement important dans tous les sports, mais encore plus au tennis. Dès que la balle sort de la raquette de l'adversaire, t'as déjà tous les indices que ça te prend pour savoir quelle sorte d'effet, quelle est la vitesse de la balle, comment faut que tu te prépares, quoi faire avec cette balle-là. Donc, les champions ont tous des visions extraordinaires. Ils sont rapides pour déceler des choses. Ils voient quasiment la marque de la balle qui s'en vient vers eux à une vitesse vertigineuse. Donc, Goffin est un peu moins épeurant. Ils ont joué 4 fois dans le passé, 2 victoires de chaque côté. Et Miloš Raonic, évidemment, avec son service, la surface est propice à son jeu. J'espère évidemment que pour lui, ce sera un beau tournoi également. Et tu vois, quand tu glisses au classement et que tu n'es plus parmi les 16 premières têtes de série, plus parmi les 8 premières têtes de série, et que tu n'as pas de laissé-passer au premier tour, et que alors ça arrive ce genre de choses-là, que tu joues contre des grandes têtes de série. Bonne nouvelle, cependant, évidemment, un des vieux routiers du côté de nos Canadiens, Peter Polansky, jouait contre ce matin Matthew Ebden, l'Australien, qui est un serveur voléeur qui a connu, lors de la dernière année et demie, de très, très bons résultats. Polansky a gagné son match de premier tour, 7-6 et 6-4, et pour un joueur qui a un classement comme le sien, qui n'est pas membre du top 100, ce serait tellement extraordinaire alors qu'il est au-delà de la trentaine maintenant et qu'il s'accroche pour aller chercher des résultats de meilleure qualité, qu'il soit capable d'aller un petit peu plus loin cette fois-ci dans un tableau de cette envergure.
Bon, parlons des femmes un peu parce qu'il y a une grande absence, c'est Serena Williams qui devait être là, qui était là jusqu'à tout récemment et puis finalement elle l'a annulé pour des raisons personnelles. Qu'est-ce que c'est les raisons personnelles? Est-ce qu'on le sait?
Ben, en fait, on se souviendra qu'à Wimbledon, Serena, même si elle n'avait que 3 tournois derrière la cravate et qu'il s'agissait de son 4e tournoi en 2018, pour les raisons que l'on connaît, elle a accouché et puis ça a été difficile par la suite. Donc, Serena Williams a perdu très, très sèchement en finale du tournoi de Wimbledon contre Angelique Kerber. Là, elle enchaîne parce qu'elle a besoin de match avec le tournoi de San Jose en Californie. Mm-hmm. Elle joue contre Joanna Konta, qui a déjà été une membre du top 10, qui frappe la balle très à plat, très fort dans les coins. Konta, lui, joue le match de sa vie et elle écrase complètement Serena Williams. Elle était tellement dominée. Alors moi, je me suis dit, après ce match-là, ben, elle va avoir hâte d'arriver à Montréal et de se reprendre. Ouais. Et puis ça a été le contraire. Alors j'imagine que elle, la façon qu'elle voit ça, elle ne se trouve pas assez rapide sur le terrain, ou bien elle était malade, un des deux. Quand tu donnes pas beaucoup de... On peut s'imaginer des choses. Elle se trouve pas prête pour compétitionner à ce haut niveau, parce que le tableau de Montréal, tout comme celui de Toronto, c'est tellement, tellement fort. Il n'y a pas de match facile. Et pour Serena Williams, en plus, elle avait au premier tour Alizé Cornet, qui a une belle fiche, qui a plusieurs victoires, une fiche positive face à Serena Williams, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc, j'imagine qu'elle a trouvé qu'elle n'avait pas peut-être le conditionnement physique, parce que surface dure, c'est très différent. Ouais. Sur le gazon, tu peux faire parler ta puissance et écourter les échanges, mais sur le dur, les filles sont rapides, en forme, et la cadence est très, très élevée. Et plus le match avançait à San Jose face à Konta, plus elle avait de la difficulté à suivre la parade, tellement l'autre était belle en fond de terrain. Alors, j'imagine qu'elle se sent tout simplement pas prête, puis elle veut pas vivre comme ça d'autres matchs où elle se sent complètement dominée et aussi impuissante sur le terrain de tennis. Serena Williams et l'impuissance, ça va pas ensemble.
OK. Parlons un peu de nos Québécoises, là, parce qu'il y en a deux qui vont jouer au cours des prochaines heures. Il y a entre autres Eugénie Bouchard, je pense qu'elle joue demain, c'est ça?
Oui.
Et est-ce qu'elle a des chances, Eugénie Bouchard, dans ce premier match?
Elle a toujours des chances, Eugénie Bouchard. On a toujours des chances. Mais c'est sûr que la commande est très élevée, Louis. Elle joue contre la 14e tête de série, 15e mondiale, la Belge Elise Mertens. Peut-être que c'est pas un immense nom, un peu comme tout à l'heure, je vous parlais de Joanna Konta qui a donné une fessée à Serena Williams, mais ce sont des filles qui sont très solides. En fait, les deux joueuses jouent à peu près de la même manière. On prend la balle tôt, il n'y a pas de balle banale, on accélère sur tout, on est rapide, on est en forme, on est bien entraîné. Et Mertens a même fait les demi-finales cette année aux internationaux d'Australie au mois de janvier. Ouais. Donc, c'est une fille qui joue du tennis extraordinaire cette année. Elle a même, Louis, remporté 3 titres de haut niveau. Alors, de niveau international, là. C'était pas des grands chelems, c'était pas des tournois de la série Premier, mais c'était quand même des tournois d'importance qui sont évidemment qui font partie du circuit WTA. Alors, c'est possible, mais ça va prendre un gros match.
Mais elle était quand même elle était dans une belle lancée, là, Eugénie Bouchard, au cours des dernières semaines avant sa blessure, là.
Oui, parfaitement, parce que quand même, ce qu'on a vu de sa part au tournoi de Wimbledon, c'était fort encourageant. Elle s'est qualifiée, et c'est pas facile de gagner 3 matchs de suite à Roehampton. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Wimbledon, mais c'est quand même sur gazon. Donc, elle a été capable de survivre à cela, ce qui est exceptionnel. Puis, en même temps, ben, elle arrivait du tournoi de Stade, en Suisse, où elle a aussi été capable de bien faire avec une présence en demi-finale. Mais malheureusement, c'est un petit peu la même chose qui se passe tout le temps pour Eugénie. Un peu comme Miloš Raonic, ce sont souvent les blessures qui l'arrêtent dans sa poussée vers les sommets. Alors ça, honnêtement, elle dit qu'elle est bien, elle déborde pas de confiance, si je me fie à ses propres paroles, mais elle est quand même dans de bonnes dispositions. Elle a déjà battu, Kerber, elle a déjà battu Konta, elle a même déjà battu Serena Williams, Eugénie Bouchard, dans un match qui comptait pas, là, mais c'était quand même un match de compétition. Donc, elle est très certainement capable de bien faire et de gagner ce match-là, mais disons qu'elle ne sera pas la favorite, et ça, c'est tout à fait normal, on n'a qu'à se fier au classement international pour parler de cela. Mais, tu sais, Ashtad, elle a battu Timea Bachinski, qui revient de blessure, mais qui a déjà été membre du top 10. Elle a aussi une meilleure sur des filles de qualité qu'on connaît un petit peu moins, mais qui sont mieux classées qu'elle, comme Golubic, la Suissesse. Alors, je pense qu'il peut se passer de belles choses pour Eugénie, puis en espérant qu'elle commence bien le match, pour bien se sentir et que les gens puissent embarquer dans le match avec elle.
Bon, parle-moi de Françoise Abanda maintenant, qui elle, devait pas avoir de laissez-passer. Finalement, elle se retrouve avec un laissez-passer. Qu'est-ce qu'on attend d'elle, là, ce tournoi-ci?
Ben, en fait, elle avait reçu un laissez-passer, Louis, mais dans les qualifications.
OK.
Et lorsque, évidemment, juste avant de faire le tableau, il y a eu certaines joueuses qui ont déclaré forfait, et notamment notre Canadienne Bianca Andreescu. Mm-hmm. Alors, Sylvain Bruneau, qui est en charge, évidemment, du tennis de grande qualité de haut niveau au Canada, a décidé de remettre ce wildcard, cette invitation qui était réservée à une Canadienne, à celle qui était la prochaine au classement, et c'était Françoise Abanda. Alors, Abanda, dans le sens, Louis, avec tout ce qui lui est arrivé récemment, les petites controverses alentour d'elle, c'est vraiment un immense cadeau du ciel ce qu'elle vient de recevoir, parce qu'elle va jouer contre une fille issue des qualifications. C'est un match qu'elle peut très certainement gagner. Mm-hmm. Ce sera fort intéressant de voir comment elle va se débrouiller. Je pense que du côté, évidemment, de Françoise Abanda, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas connu de bons moments sur le circuit. Cette aventure-là avec les paroles après la Coupe Fed, ça lui a énormément nui. Alors, j'ai hâte de voir si elle sera capable de profiter de ce qu'on lui offre. Parce que, évidemment, avoir la chance de jouer contre une fille qui n'est pas tête de série, avoir la chance de jouer également contre une fille de la trempe de Chris, qui s'appelle Kirsten Flepken, son adversaire.
Ouais.
C'est une Belge qui a peut-être un peu comme un style d'une autre époque. Un beau revers coupé, une fille qui peut avancer, qui frappe la balle tôt, mais qui va pas la sortir du terrain, l'écraser, la prendre par puissance. Tu sais, elle va pas la sortir du terrain, faire comme Konta a fait avec Serena Williams. Elle va avoir sa place dans ce match-là, Françoise Abanda, puis elle est capable d'aller chercher ce genre de victoire. Et c'est ce que ça lui prend. Ça lui prend un élan vers le haut après tout ce qui s'est passé et le peu de victoires qu'elle a su aller chercher sur le circuit.
Bon, on va lui souhaiter la meilleure des chances parce que c'est une belle joueuse à voir évoluer. Hein?
Elle a un beau talent, ça c'est certain.
Exactement.
Elle est encore toute jeune aussi. Hein?
Bien sûr. Quel âge elle a? Elle est quoi? La jeune vingtaine?
Jeune vingtaine, exactement.
Oui. Bon, on va lui souhaiter la meilleure des chances. On va suivre, bien sûr, ça c'est jusqu'au 12 août. Alors, on aura bien le temps, n'est-ce pas, de se reparler d'ici là. Merci Hélène d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir, au revoir.
Au revoir. Hélène Pelletier est analyste de tennis à RDS, entre autres choses. Elle se trouve actuellement à Toronto pour la portion masculine de la Coupe Rogers, mais bien sûr, elle couvre aussi le secteur féminin.